Radio G 101.5 FM.
Avec Radio G, fêtez les 100 ans de la radio en France sur le 101.5 FM.
Naissait la radio, l'occasion de revenir ensemble sur les événements qui ont marqué 100 années de mode, d'invention, de musique, de médias, de cuisine. Bienvenue dans 100% ou 100 ans pour s'entendre, hein. Une émission réalisée par une partie de l'équipe de Tendance à me plaire sur Radio G, une émission découpée en 5 tranches de 20 années. Commençons par 20% de l'émission. Débutons les années entre deux guerres, entre 1921, l'année de la création de Radio Tour Eiffel, la première station de radio créée en France, mais on y reviendra dans l'émission, et 1939 ou 40. Au programme, les grands événements, la mode et les grandes inventions de cette période dite année folle. On commence tout de suite avec Pierre Benoît qui va nous parler des grands événements de cette période.
1920-1940, les grands événements.
Le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de Wall Street s'effondre. Un coup d'arrêt brutal de la croissance économique américaine qui va entraîner la faillite d'un grand nombre de banques et frapper de plein fouet le vieux continent. De cette crise en naîtra une autre, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà comment c'est arrivé. À la fin de la Première Guerre, les Américains n'auront participé qu'à peine une année au conflit, mais ont pu profiter du besoin en armes et fournitures des Anglais et des Français pendant ces 4 terribles années pour mettre sur pied une production de masse générant de gros bénéfices. Ces bénéfices, les banques américaines le prêtent volontiers aux vainqueurs pour les aider à redresser leurs économies après la guerre, et nombre d'industriels investissent en Allemagne, grande perdante. Aux États-Unis, la croissance explose et le niveau de vie s'améliore. C'est à ce moment que se démocratisent la radio, le jazz, mais aussi qu'apparaissent les aspirateurs et les machines à laver. Aux États-Unis toujours. Sauf que toute bonne chose ayant une fin, la spéculation sur les titres est rattrapée par un très léger repli de la production au début de l'année 1929. Les financiers prennent peur, ils cherchent à vendre à tout prix, la valeur des titres s'effondre encore plus, et là, c'est la faillite du système. Les capitaux investis en Allemagne par les industriels américains sont rapatriés, et la crise s'installe durablement dans ce pays, qui élira en 1934 Hitler, un homme qui promettait au peuple allemand de retrouver de l'emploi en produisant des armes qui vont conduire à la terrible guerre qu'on connaîtra.
Eh bien, merci Pierre Benoît. Alors vous êtes dans 100%, une émission spéciale. Nous fêtons ensemble 100 ans de radio. Et tout de suite, on va parler mode et stylisme avec Caroline.
1920-1940, la mode.
Oui, alors 1921-1939, eh bien c'est ce qu'on appelle les années folles. Alors évidemment, toute la révolution socioculturelle va avoir un impact sur la mode. Les cheveux se raccourcissent, c'est le début du style garçon. La silhouette est androgyne, les cheveux courts, hyper plaqués. C'est la mode des robes droites au-dessous du genou avec une ceinture très basse. Et c'est bien sûr la révolution du maquillage. En effet, le maquillage se popularise. C'est surtout la grosse révolution du rouge à lèvres avec l'invention du tube coulissant créé par Paul Baudecroux. Le premier s'appelait le rouge baiser. Dans les années 30, les frères Revson créent des rouges à lèvres assortis au vernis à ongles. Donc c'est une véritable révolution pour les femmes. Ensuite vient Coco Chanel, et là c'est la folie des bouches exclusivement rouges, des yeux cernés de noir et des sourcils très droits. Donc voilà, c'était ça le make-up et le look de toutes les stars comme Louise Brooks ou Greta Garbo, c'était le look à adopter à l'époque. La deuxième révolution de ces années folles, ça va être le bas en nylon. Les jupes se sont raccourcies, donc il a fallu créer un bas qui était un petit peu plus haut. Alors, par chance, la bourgeoisie, elle, privilégiait les bas en soie naturelle. Et pour les autres, il a fallu attendre une petite fibre artificielle qui était un peu grossière, mais beaucoup plus accessible. Tout ça, bien sûr, avant la création du nylon. Et alors, savez-vous d'où vient le nom nylon ? En fait, ça vient du nom des femmes de ce groupe de créateurs, de chimistes américains qui ont donné Nancy, Louise, etc., le nom de leurs femmes, puisqu'ils n'avaient aucune idée qu'à la base, le nylon s'appelait le polymère 6-6, donc c'était pas très vendeur. Enfin voilà, ça a été créé par un polychimiste américain. Il s'en vend 200 paires minutes à cette époque, et avec leur couture qu'il fallait aligner parfaitement sur l'arrière de la jambe, certaines, comme ma mamie d'ailleurs, faisaient parfois juste un trait au crayon sur la jambe nue ou sur un bas un peu usé pour faire illusion. Et aujourd'hui encore, c'est un indispensable.
Merci Caroline. Alors continuons de parcourir les années entre 1921 et 1939 avec, et on est dans le thème, l'invention de la radio. Retrouvons notre spécialiste et passionné Bruno.
1920-1940, les inventions.
On parle des 100 ans du média radio, il faut bien qu'on aborde son invention. Alors en fait, ça a bien plus de 100 ans. Le premier récepteur radio datait de 1895. Mais c'est vrai que c'est le 24 décembre 1921 que du haut de la Tour Eiffel, les premières ondes radio grand public sont diffusées. Mais en fait, Jamy, c'est quoi la radio ? Bon allez, on va faire simple, rassurez-vous. Allez, vous allez lancer une pierre au milieu d'une belle mare et vous aurez la surface de l'eau qui va onduler en cercle du point d'impact vers les bords. Jusque-là, tout va bien. Imaginez que vous mettiez un petit surfeur sur une de ces vagues. Eh bien, il sera transporté jusqu'au bord du bassin en glissant sur la vague. Eh bien, la radio, c'est ça. On crée une vague, on y pose un surfeur qui contient le son de votre voix transformé en signal électrique. Alors, tous ceux qui sont autour de la mare, eh bien, recevront cette information. Mais le problème, c'est que si tout le monde jette des pierres et met des surfeurs sur les vagues, ça va être un beau bordel. Mais la vague que l'on va créer, eh bien, elle monte et elle descend à une certaine vitesse. Ça se mesure en hertz. Un hertz, c'est une vague qui fait un creux et un dessous. Voilà, ça fait un hertz, un creux et un dessous. Donc un hertz, eh bien, c'est une fois par seconde, ça monte et ça descend. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut créer plusieurs vagues à partir d'un même point qui monte et qui descendent à des vitesses différentes les unes des autres. Eh bien, sur le bord de la mare, il suffit de dire à votre poste de radio d'isoler une vague unique en sélectionnant sa vitesse. Je veux juste la vague qui va à telle vitesse. Vous aurez alors accès uniquement au surfeur qui est dessus, avec sur sa planche évidemment votre musique et votre voix. C'est pour ça par exemple qu'on écoute Radio G sur 101,5 MHz. La vague, elle varie à 101,5 millions de fois par seconde. Voilà, et c'est elle qui transporte notre voix actuellement. Mais en cette année 1921, les appareils électroniques ne peuvent aller aussi vite. On se contentera donc de vagues beaucoup plus lentes. Elles vont de 30 000 à 300 000 Hz, donc 300 000 fois par seconde. C'est ce qu'on appelle les grandes ondes. C'est la touche Géo des anciennes radios, vous vous en souvenez peut-être. Alors il y a un avantage avec les grandes ondes, c'est qu'avec une seule antenne, eh bien, on peut créer une vague qui va très loin. Un seul émetteur permettait par exemple de recevoir Europe 1 dans tout le nord de la France. L'inconvénient, c'est que sur ces grandes vagues, on pose qu'un seul surfeur. Et encore, il a des tout petits bras. Donc résultat, la radio est en mono avec une qualité de son médiocre. Mais plus tard, dans les années 50, mais surtout 80, on utilisera la FM. Là, on peut mettre deux surfeurs sur la vague pour un son stéréo, une qualité bien meilleure. Voilà, vous savez maintenant pourquoi on parle de fréquences radio pour pouvoir les écouter. Alors il reste juste un petit souci, les ondes radio sont vite, elles vont vite dans les airs, mais elles ne sont pas non plus instantanées. Du coup, si on crée une vague à Angers et une autre à Nantes, avec les mêmes fréquences, eh bien quand les vagues vont se rencontrer, eh bien ça va être le bazar et on peut recevoir la radio. C'est pourquoi une radio nationale en FM a des fréquences différentes d'une ville à l'autre, et aussi pourquoi on n'utilise qu'un nombre limité de fréquences sur une ville différente d'une ville à l'autre, et donc un nombre limité de radios. Mais dans une prochaine émission, on verra que tout va changer avec la RNT.
Merci Bruno. d'exploration avec cette fois-ci les années entre 1940 et 1960 en évoquant les grands événements mais aussi les faits marquants dans les médias, de la cuisine et des loisirs mais aussi de la musique. Et pour ce thème, nous faisons le point avec Sonia.
1940-1960, la musique.
Alors, dans les années 40, eh bien, il y a du swing dans l'air et de la chanson française. Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, le moral de la population est très bas et c'est donc pour ça que le swing fut inventé. Les big bands règnent alors sur la scène musicale. Le public cherche à se divertir par la musique, à tel point que même les lieux doivent préparer leur soirée bien à l'avance car les groupes sont très demandés. En France, les années 40 tranchent avec les années 30. Hein, on chante son amour pour la France et la musique cultive le patriotisme. Ainsi, donc, on retrouve Charles Trenet et Tino Rossi hein, qui sont au sommet de leur gloire. La chanson « Douce France » est très représentative de cette période. Elle évoque aujourd'hui la nostalgie d'une France qui était prospère et agréable à vivre.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Dans cette décennie marquée par la guerre, la France et les Français ont besoin de musique plaisante et patriotique et on retrouve à ce moment-là le chant des partisans. Et puis bien sûr, hein, la décennie 1940 verra aussi les débuts et l'apogée d'Édith Piaf. Les années 1950, quant à elles, voient se croiser de multiples styles de musique tels le rock'n'roll, la pop, le swing, le rhythm and blues, la country music, le jazz et la musique soul se côtoient. Alors bien sûr, hein, c'est la naissance du rock'n'roll, Elvis Presley sur le toit du monde. Cette musique domine aux États-Unis et s'est très vite propagée au reste du monde. Tous les styles de musique se teintent de rock'n'roll, de la musique pop à la musique country, en passant par le jazz. Et puis, on retrouve également, hein, là, en réaction aux communautés blanches et de l'envahissement du rock'n'roll sur la scène internationale, la soul qui arrive sur la scène. Elle est dérivée des chants religieux gospel. Et donc, effectivement, c'est un peu influencé également par le jazz et le rock. La soul donc arrive sur scène. Des artistes iconiques, on retrouve Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Nina Simone. Enfin voilà, toute une belle histoire. Les chanteurs à texte marquent quant à eux les années 50 en France et donc on va retrouver Henri Salvador, Charles Trenet, Georges Brassens, Jacques Brel, mais encore effectivement Édith Piaf.
Merci Sonia. Allez, place maintenant à Pierre Benoît pour les grands événements qui ont marqué les années 40-60.
1940-1960, les grands événements.
Le 18 juin 1940 peut être considéré comme l'acte de naissance de De Gaulle. Et ce jour-là est probablement le plus historique pour la radio française, quoique un peu anglaise. Voici ce qu'il s'est passé. Après une période qualifiée de drôle de guerre dans laquelle s'observent et se mesurent français et allemands, ces derniers décident enfin de passer à l'offensive. Le schéma était pourtant bien connu, les soldats du Reich sont passés par la Belgique pour prendre à revers les troupes françaises comme en 14. De Gaulle, colonel à ce moment-là, brille d'abord avec son régiment de blindés. Puis il est appelé le 6 juin 1940 par Paul Reynaud, le président du Conseil, donc du gouvernement français, comme sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Sa mission est de coordonner la poursuite des combats avec le Royaume-Uni face à l'invasion violente qu'est en train de subir la France à cet instant. Voilà comment et pourquoi il tisse des liens avec Winston Churchill. Et ils fumaient pas de clopes ensemble. Il apprend le 17 juin que Paul Reynaud vient de remettre sa démission au profit du maréchal Pétain. L'exil commence ainsi. Déterminé à continuer le combat et à s'opposer contre Pétain, il est tout seul à considérer qu'il représente la France, une France libre et combative. C'est en substance le message qu'il radiodiffuse le 18 juin pour appeler tous les Français à le rejoindre. Vous le saviez sûrement, mais je vous le mets quand même, l'appel du 18 juin sur la BBC a été très très peu entendu, mais vraiment très peu. Et il n'a même pas été enregistré, sauf 4 jours plus tard sur demande de De Gaulle, qui a répété encore une fois son texte pour l'histoire qu'on entend actuellement.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Eh bien, merci Pierre Benoît. Alors, je vais maintenant vous parler des médias de ces années-là.
1940-1960, les médias.
Alors, l'objet de ma chronique est de vous faire voyager dans les médias. Alors, par médias, j'entends télé, radio, internet, mais aussi presse. Alors, concernant la télé, les premières images télé sont apparues avant cette période. Il faut remonter en 1937, voire en 1926. Mais le plus marquant reste 37, où un premier reportage est diffusé en direct depuis l'exposition universelle. Pendant la guerre, il y a eu une coupure de ce média. Et il faut attendre les années 50 pour que la télévision se développe, avec notamment le premier journal télé en juin 1949. À l'époque, pas de présentateur, les actualités sont filmées et commentées en direct et en voix off. La télévision est encore un luxe, on comptait 3000 récepteurs à peu près. On parle alors de radiodiffusion française, la RDF, voire de radiodiffusion télévision française, RTF. Mais il faut attendre un peu plus tard pour voir l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, arriver. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'univers graphique, des images de générique de l'ORTF, c'était des anneaux dans l'espace, imaginez. Est-ce que vous vous souvenez également de ces génériques de programmes très célèbres et populaires ? La séquence du spectateur, par exemple, qui présentait des extraits de films de cinéma, une émission qui va durer jusqu'en 1989. La piste aux étoiles, réalisée par Pierre Tchernia, qui est une émission de télé qui présente un spectacle de cirque. Il y avait également 5 colonnes à la une. Mais à l'époque, quand même, un grand événement va marquer la télévision à l'époque et montrer que ce média a une forte aptitude à saisir en direct de grands moments susceptibles de passionner un large public. Ça se déroule le 2 juin 1953, c'est le couronnement d'Elisabeth II. Et qui présentait à l'époque cet événement et commentait en direct la cérémonie, je vous le donne en mille. Léon Zitrone. Donc vous pouvez imaginer la tête de la reine lorsqu'au moment de son entrée dans l'abbaye, devant une prestigieuse assemblée venue du monde entier, elle pouvait apercevoir pour la première fois les caméramans de 5 télés européennes chargés de retransmettre simultanément et en direct l'événement. Je vous propose d'écouter un extrait de cet événement pour vous replonger dans l'ambiance.
Des hommes, des femmes, des enfants de tous âges et de toutes conditions qui occupaient les trottoirs du parcours depuis plus de 30 heures dessinaient au cœur de Londres une émouvante couronne humaine. Au moment où, sous les yeux de ses deux enfants, la reine Elisabeth, dans toute sa majesté, sort du palais de Buckingham, 10 millions de citoyens britanniques et 1,5 million de visiteurs étrangers s'apprête à lui faire un triomphe comme on n'en vit jamais.
Alors, avant de passer à d'autres médias quand même, je fais un petit hommage à Bruno avec la première diffusion d'un concours célèbre. Écoutez ce générique. C'est l'Eurovision, le tout début en 1954.
Oui.
Et alors, pour la presse, j'ai été très étonné de titres de presse qui sont apparus dans ces années-là. J'ai noté le magazine Elle, qui a donc 70 ans. Ils ont d'ailleurs fait une expo avec les unes de Elle sur les Champs-Élysées pour cet anniversaire. Et aussi, j'ai noté L'Équipe, donc naissance de L'Équipe dans ces années-là. On accueille maintenant Karine, qui nous parle de quelques inventions dans le domaine de la cuisine et des loisirs, Karine.
1940-1960, l'art de vivre.
Qui aura marqué les grandes mutations sociales de ces dernières décennies est l'influence du LSD. Inspiré par le symposium organisé à l'occasion des 100 ans de son inventeur, cette substance qui a bouleversé la génération du baby-boom, enthousiasmé nombre de scientifiques, étourdi la jeunesse et laissé parfois les plus fragiles sur le carreau. Il a été synthétisé pour la première fois en 1938. Alors côté cuisine, en 1944, sont conçus pour être léger et durable, une option sûre et pratique à utiliser dans la cuisine, à la maison ou lors d'événements en plein air, pour en profiter toute l'année, c'est bien le Tupperware. Une autre année, un appareil électroménager commercialisé pour la première fois en 1955. Tenez-vous bien, c'est un produit à l'origine conçu par des hommes, mais destiné à des femmes. Je vous parle du micro-ondes. En 56, toujours pour les femmes, la pilule contraceptive. Alors c'est une véritable révolution pour les femmes. Leur liberté, leur sexualité, mais aussi leur vie quotidienne allait radicalement être bouleversée. Si le 20e siècle est celui de la libération de la femme, il ne faut pas oublier les nombreuses lois qui, jusqu'aux années 60, les enfermaient dans de véritables carcans. Alors, à l'époque, la contraception est passible d'amende et l'avortement de peine de prison quand ce n'est pas la peine de mort. Donc, il faudra attendre 1967 pour que le Parlement autorise enfin la pilule à entrer dans les foyers français. Alors, sinon, côté jeu, on a l'arrivée du PMU en 1954. Oui, c'est ça. Donc, invention d'André Caruche. Il a créé, créateur et directeur emblématique du PMU, donc le tiercé s'imposa comme le roi des paris et connaissant un large succès populaire, il a donc lancé la dynamique du PMU, premier opérateur européen de paris hippiques et deuxième opérateur mondial. Donc après les chevaux, on a la poupée Barbie qui a fêté ses 60 ans le 9 mars 2019, sans transition aucune. Donc avec ses allures de pin-up, la première Barbie créée par Mattel le 9 mars 1959, archétype de la blonde californienne, elle correspondait au canon de beauté de son temps. Alors si les mensurations irréalistes plus qu'idéales de ses débuts ont depuis été revues par le géant américain du jouet, Barbie a longtemps été poursuivie par cette image un peu caricaturale de femme superficielle, riche et oisive, qui lui a valu d'incessantes critiques. Alors au fil des années, Barbie n'a cessé de se démener pour féminiser de nombreux métiers réservés aux hommes et rester au goût du jour jusque sur les réseaux sociaux.
Avec les années entre 1960 et 1980, en évoquant bien sûr la musique pour les années yéyé, mais aussi la mode bien typique de ces années-là. On parlera invention, mais aussi de la naissance de plein de jeux. Vous allez voir, ça va être surprenant. Allez, c'est parti avec Sonia pour la musique.
1960-1980, la musique.
Les années 60 sont les années très marquantes en musique. La musique était très écoutée par les adolescents et les jeunes adultes qui avaient une appétence toute particulière pour le rock'n'roll européen grâce aux émissions de radio américaines qui étaient diffusées en Europe et également au vinyle. C'est en outre à cette période que le genre se popularise et se divise en deux grandes tendances. La pop, on va retrouver donc les Beatles particulièrement, ou bien également le rock avec les Rolling Stones, les Velvet Underground. Et à cette époque, le rock rime avec scandale associé à la drogue et à la violence. Puis vers la fin des années 60 va apparaître le mouvement hippie, le flower power. Les gens prônent la paix et l'amour libre. Ils veulent une vie communautaire. Et donc, effectivement, ce mouvement a pour effet d'influencer le rock qui devient alors plus psychédélique. Et c'est aussi l'avènement des festivals musicaux tels que Woodstock. Du côté de la chanson française, eh bien, on va avoir le droit à la chanson pop, les yéyés, les chansons romantiques, les chansonniers. Donc, ces années 60 jusqu'aux années 80 vont être marquées surtout par les époux Mariti, Gilbert et Carpentier, donc, qui sont les rois de la variété et qui vont tous les samedis nous servir du Johnny Hallyday, du Richard Anthony ou bien encore du Gilbert Bécaud, Aznavour, Sacha Distel, Gainsbourg, Enrico Macias. Voilà, on les retrouve tous chaque semaine. Les années 70, quant à elles, les progrès techniques étant de plus en plus complexes, l'utilisation du synthétiseur se généralise et va permettre un enrichissement, une diversification des courants musicaux. Le rock planant tel les Pink Floyd ou bien le disco, Donna Summer, puis la New Wave. Les années 70, c'est aussi le rap hein, qui va arriver dans les ghettos des États-Unis. Il se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime. Et puis, surtout, et aussi, le disco, hein, le genre musical, est une danse ayant émergé aux États-Unis dans les années 70. Et effectivement, c'est à l'origine une musique pour danser. Hein. On va privilégier le rythme et l'orchestration. Et effectivement, bien, le public va pouvoir y danser dessus dans les discothèques. Alors dans ces années 70 en France, eh bien nous on est plutôt Mike Brandt, hein, son succès à lui, les chanteurs, je dirais à Minette, tel aussi Frédéric François, c'est Jérôme ou bien encore Patrick Juvet. On va retrouver également un peu plus dans l'émotion du Daniel Guichard, du Michel Zonaz, également Michel Sardou arrive. Et puis, bien sûr, c'est l'avènement des duos, Stone et Chardin, Ringo et Sheila, Johnny et Sylvie. Et puis parmi les chanteuses populaires, on va retrouver Nicoletta ou bien encore Michel Thor. Voilà, toute une histoire.
Merci Sonia. Alors on espère vous donner à la maison envie de réécouter plein de titres et de danser chez vous. Allez, place maintenant à la mode des années 60 avec Caroline.
1960-1980, la mode.
Et oui, de 1960 à 1979, alors là, on a affaire à deux décennies cultes. Donc les 60s, c'est la décennie de l'audace, de l'émancipation du corps, de la femme, le début des créateurs qui vont devenir des légendes et aussi des icônes. Et évidemment, c'est la grosse révolution. La première grosse révolution, c'est quoi ? C'est la création de la mini-jupe par André Courrèges et inspirée par Marie Kante. Donc, elle était souvent portée avec des bottes blanches. Elle arrive mi-cuisse. Elle devient donc tellement courte que les bas sont remplacés par des collants. Donc voilà, c'était le look 60s très yéyé à adopter absolument. En autre icône, on trouve par exemple outre-Atlantique Elizabeth Taylor, qui était très connue pour son style glamour et son look signature, un énorme trait d'eyeliner et beaucoup de bleu sur les yeux. Dans un style beaucoup plus classique, on adorait aussi les tenues en tweed Chanel de Jackie Kennedy, avec les lunettes XXL placées sous le nez. C'était très très américain. En France, c'est l'ascension des créateurs, donc Yves Saint Laurent pour sa mode androgyne, Pierre Cardin qui a fait le premier défilé prêt-à-porter. Avant, les défilés n'étaient qu'haute couture et donc destinés à une élite. Ou encore Paco Rabanne et son Space Age. C'est un défilé inspiré par la conquête spatiale et qui a énormément inspiré le mobilier et la déco 60s. Alors en France, on pense aussi aux icônes comme Françoise Hardy, Brigitte Bardot ou Twiggy pour la version anglaise aussi, qui apporte la tendance psychédélique de ce qu'on appelait le Swinging London. Donc beaucoup de pois, de orange, du jaune, très influencé par Andy Warhol et l'art en général. Et tout ça va apporter les bases de la mode 70s du coup, avec des robes à imprimer, des pantalons pas def, des chaussures à plateforme et surtout les cuissardes. Donc on garde un look androgyne british, tout comme Jane Birkin, Janis Joplin, etc. pour faire cette mode 70s. Donc voilà, les 70s font place à une nouvelle mode, mais à d'autres revendications plus pacifistes.
Merci Caro. On continue de voyager dans les années 60 à 80 avec les inventions qui ont marqué les générations entières et révolutionné le quotidien de ces époques. On découvre ça avec Bruno.
1960-1980, les inventions.
Alors là, je vais vous parler d'une révolution. Nous sommes en 1963 et jusqu'à maintenant, pour écouter de la musique chez soi, on utilisait des disques vinyles. Pour les enregistrer, on utilisait des presses qui reproduisaient les sillons sur des disques. Alors ça demande du matériel et c'est loin d'être à la portée du grand public. Il y avait bien la bande magnétique qui est inventée en 1928, mais les grosses bobines et les imposants lecteurs à bande étaient là aussi réservés aux professionnels. Et donc révolution, en 1963, on invente la cassette. Une bande magnétique enfermée dans une boîte en plastique normalisée avec deux trous d'engrenage au centre pour faire défiler la bande. Alors celle-ci, elle possède quatre pistes pour proposer un son stéréo différent selon qu'on insère la cassette d'un côté ou de l'autre. On pouvait avoir 45, 60, 90 et même 120 minutes de musique. Et le must, c'est qu'on pouvait nous-mêmes enregistrer avec un petit magnétophone grand public. Alors 16 ans plus tard, en 1979, Sony sort un magnétophone en version portable avec des écouteurs. C'est le fameux rockman ou baladeur. Alors aujourd'hui, cela semble la préhistoire pour les milléniums, mais pourtant cette technologie a accompagné toute une génération. On nettoyait le galet qui entraînait la bande avec un coton-tige pour éviter que ça coince, ou pire, que ça s'en mêle, auquel cas, seule solution, sortir la cassette, démêler la bande et prendre un crayon et faire tourner l'engrenage pour tout rembobiner. Et imaginez aussi comment faisaient les maisons de production pour enregistrer les cassettes pré-enregistrées de leurs chanteurs. Alors que pour les disques, il suffisait de presser un vinyle en quelques secondes, là, il fallait des centaines de magnétophones en parallèle pour autant de cassettes qui tournaient pour enregistrer la bande. Autant dire que ça prenait beaucoup de temps pour des cassettes vendues à des millions d'exemplaires. Mais le must, c'est qu'on pouvait aussi enregistrer donc de chez nous la radio et faire nos playlists. Il fallait alors penser à casser la petite languette à l'arrière pour ne pas effacer par erreur l'enregistrement. Mais une nouvelle génération pointait déjà le bout de son nez, c'est le numérique avec le compact disque en 1982. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci Bruno. Alors on termine notre voyage dans les années yéyé avec Karine qui va nous parler des innovations dans le monde du bien-être et des loisirs notamment.
1960-1980, l'art de vivre.
Alors, dans le côté bien-être, le phénomène hippie, l'ouverture à d'autres cultures, un besoin d'émancipation, la recherche de nouvelles perceptions sensorielles et d'états de conscience modifiés les amenèrent en fait à des expressions artistiques de psychédélisme. Dans leur communauté, ils espéraient vivre librement dans des rapports humains qu'ils voulaient plus authentiques, en rupture avec les normes des générations précédentes. Le mouvement a une influence culturelle majeure, en particulier dans le domaine musical. Donc la diffusion d'une partie de ces valeurs issues de ce courant ont accéléré l'évolution des mœurs de la société occidentale dans son ensemble, même si le mouvement lui-même a perdu progressivement son ampleur. Alors on trouve aussi dans cette tranche de décennies les voyages, un élément précurseur au développement des loisirs et surtout du voyage dans les années 60. Grâce aux congés payés, à l'expansion des moyens de transport, l'amélioration du niveau de vie ainsi que les médias. Qui dit voyage dit évasion, donc jeu, l'arrivée de l'ordinateur. Si je vous dis un système de traitement de l'information programmable, vous me dites ordinateur. Mmh. Eh bien, c'est le français Jacques Perret, latiniste et philologue, qui a proposé ce mot à IBM au moment où l'entreprise s'apprêtait à commercialiser une nouvelle machine, l'IBM 650. Jeu indémodable, souvenez-vous, en 1974, ce casse-tête géométrique à 3 dimensions est composé de 26 cubes extérieurs de différentes couleurs.
Rubis
toujours indémodable, exactement, Bruno. Son nom d'origine, tu le connais?
Ah non.
Le Magic Cube, donc inventé par un sculpteur et professeur d'architecture hongrois qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Donc c'est bel et bien le Rubik's Cube. Alors petite astuce pour le réussir le plus rapidement possible, faire une croix et finir la première face sauf un coin.
Eh ben avec ça,
bon courage.
Très content.
C'est pour la première phase. Et en 79, le Trivial Pursuit, le célèbre jeu de culture générale. Alors, une des théories de l'origine du nom du jeu, tout le monde connaît le Trivial Pursuit, ce jeu de société où chaque joueur voit sa culture générale testée dans différents domaines au gré des lancers de dés. Mais c'est aussi un jeu de mots puisque Trivial Pursuit, en anglais, veut dire quête futile, ce qui qualifie parfaitement cette bataille d'ego qui est le Trivial Pursuit.
Elle est irrésistible. immorale, suffisante, c'est terrible.
Les années 80 vont marquer des générations entières avec de multiples événements dans plein de domaines. Partons à la découverte de la période 80-2000. On va parler musique et grands événements, mais aussi de mode et de médias. Allez, sortez la boule à facettes, place à DJ Soso.
1980-2000, la musique.
Alors les années 80, eh bien, cette décennie signe la naissance de plusieurs styles musicaux tels que le rap, le hip-hop, l'électro, la dance et la new wave. Alors les chanteurs qui ont quand même marqué de façon exceptionnelle cette décennie à jamais sont bien sûr Madonna, la reine de la pop, et Michael Jackson, le roi de la pop. Alors dans la New Wave, eh bien en France, on va retrouver le groupe Indochine qui s'est lancé avec son titre L'Aventurier. Mais également dans les pays anglo-saxons, on retrouvera Cyndi Lauper ou bien encore le groupe Depeche Mode. Pour la pop, eh bien effectivement, je vous en avais parlé, elle est apparue dans les années 60 avec les Beatles. Mais il faudra attendre les années 80 pour que la pop music se popularise avec Michael Jackson et Madonna. La house et également la techno, dérivée du disco. On retrouve ces rythmes un peu du funk, du rock, de la salsa. C'est un mélange de tout ça. Et oui, c'est possible. Le hip-hop, quant à lui, il va apparaître en France dans les années 82. Il mélange d'autres styles de musique tels que le freestyle et le smurf. On va trouver des disciplines comme le rap, les graffitis, le scratch ou bien la breakdance. Et semble-t-il, en 84, il y avait une émission HIP, HOP, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui faisait venir des artistes. Et puis, on appelait les rappeurs les MC, Master of Ceremony, d'où MC Solar. On va également voir émerger les rock alternatifs et le heavy metal qui s'inspire du grunge et du pop, du punk rock, du rock indépendant. Et on va retrouver les groupes tels que AC/DC, Metallica ou Scorpion. Et puis on surfe maintenant vers les années 90 qui ont incontestablement marqué un tournant dans le paysage musical. Le synthétiseur va encore revenir en force et cela va entraîner un nouveau style musical qu'on appelle la musique techno ou la dance. L'eurodance pour tout ce qui vient de l'Europe. Alors avec la musique électronique, on va se retrouver avec une musique très entraînante, parfaitement adaptée pour les discothèques. On va retrouver Tool Limited, Dr Alban, Corona, Culture Beat. Le grunge fait son entrée fracassante avec Nirvana en porte-drapeau. Le rock alternatif se popularise et la scène anglaise se réinvente avec le mouvement Britpop. Et donc on va retrouver Oasis, Blur, les Cranberries. On assiste aussi, et ça c'est important, l'arrivée du girl power. Les filles vont pouvoir exprimer leur droit d'être elles-mêmes et s'afficher sexy et de s'affirmer. Donc bien sûr les Spice Girls et puis autant d'autres, Alanis Morissette. Mais aussi, bien sûr, on n'oublie pas les boys bands. Les garçons ne sont pas en reste. Et là, oh là là, on a toute une panoplie. Les Backstreet Boys, les G-Squad, les 2B3, et j'en passe, et des meilleurs. Pour beaucoup, en tout cas, les 90s ont marqué l'histoire de la musique avec des artistes devenus cultes et des tubes qui n'ont quasiment pas vieilli. On a tous une cassette ou une mixtape qui traîne dans nos placards.
Merci Soso, on va te laisser te trémousser sur la piste. Et pendant ce temps, on fait un pas de côté vers Pierre Benoît qui nous parle des grands événements de cette période.
1980-2000, les grands événements.
Dans la soirée du jeudi 9 novembre 1989, une foule immense s'amasse à Checkpoint Charlie à Berlin. Les gardes en poste sont décontenancés et finissent rapidement par lever les barrières. Le mur de Berlin vient de tomber. Comment un tel mur a-t-il pu être érigé au cœur de l'Europe et comment a-t-il pu céder aussi facilement ? Back in 1945. La Seconde Guerre mondiale prend fin et ce sont d'un côté Américains, Anglais et Français et de l'autre l'URSS de Staline qui se partagent les ruines de l'Allemagne nazie. Très vite, l'atmosphère se crispe entre les deux énormes blocs communistes et capitalistes, dont les idéologies s'opposent évidemment. Le monde rentre dans ce qu'on appellera la guerre froide, car jamais un conflit chaud éclatera entre les deux blocs. Pourtant, il y a une ligne bien claire sur laquelle se juxtaposent les deux puissances. Elle s'appelle le rideau de fer, un trait qui coupe l'Europe en deux. Mais pis encore, Berlin divisée, elle aussi en deux, est une enclave du monde libre en plein territoire communiste, avec des politiques, disons, un peu plus serrées. La population est-berlinoise glisse en masse vers Berlin-Ouest. À partir de 1961, la RDA, l'Allemagne de l'Est, décide d'ériger un mur pour empêcher la fuite de sa population. Pendant plus de 30 ans, des familles berlinoises seront séparées en deux, jusqu'à ce que deux choses se produisent. Tout d'abord, Gorbatchev, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, annonce que la répression armée est à exclure en cas de manifestation ou de mouvement de population. Puis vient le jeudi 9 novembre 1989, où Günther Schabowski, secrétaire du comité central chargé des médias en RDA, annonce certaines mesures qu'il n'était pas censé annoncer aussitôt à propos de l'assouplissement de la libre circulation de la population est-allemande. Un journaliste lui demande à partir de quand ces mesures rentrent en application. Schabowski est décontenancé et répond « maintenant, immédiatement ». Les caméramans eux-mêmes tremblent d'excitation d'entendre cette information et la population berlinoise ne tient plus en place et se rue au poste frontière qui troue le mur de Berlin.
Merci Pierre Benoît. La mode, la mode, la mode, ce slogan vous le connaissez ? Eh bien c'est le résumé de la vie de notre passionnée et spécialiste Caroline. On l'écoute tout de suite.
1980-2000, la mode.
Alors, les années 80, c'est la décennie du bling-bling. Il faut que ça claque, que ça fasse mal à la rétine, la frime, le fric. C'est le retour des créateurs parisiens, la génération Palace, qui attirait tous les VIP de l'époque, les Thierry Mugler, Claude Montana, ceux qui ont créé le look de l'époque, c'est-à-dire des couples architecturales, hyper affûtées, énormes épaulettes, grosses ceintures, choucroute, accessoires en plastique et surtout beaucoup, beaucoup de fluo. C'est la génération aérobique, le body vert sur le caleçon rose avec le bandeau assorti au milieu du front. Voilà, c'est le tout début du lycra partout et de l'élastane. Alors les accessoires indispensables de l'époque, c'était le kawaii bien sûr, la banane, les fards et le rouge à lèvres too much et très rose. C'est aussi une génération très logo, très marquée par les débuts de MTV, des marques. Et c'est le début des années 90 avec les tirages magazines en plein essor, avec de nouvelles icônes également, les mannequins, ce qu'on va appeler les supermodèles comme Claudia Schiffer, Naomi Campbell, et bien sûr les stars du sport, surtout du basket comme Michael Jordan, etc. Et l'arrivée des boys bands. Donc les looks années 90 typiques, c'était les crop tops, les baggies, beaucoup plus streetwear, deux macarons dans les cheveux avec les deux petites mèches devant, des grosses baskets plateforme, ou alors la salopette comme dans les séries de l'époque, et le scrunchie, le chouchou dans les cheveux. Et pour vous les hommes, c'était les cheveux mi-longs, casquette sur le côté et la veste en jean, la crème de la crème.
Merci Caroline, vous êtes toujours dans l'émission 100% à l'occasion de la semaine spéciale 100 ans de radio. Je vais maintenant vous parler de télé, radio, mais aussi presse et internet, bref, des médias. C'est parti.
1980-2000, les médias.
Je vous propose maintenant un voyage dans les années 80 et beaucoup de monde autour de ces micros aujourd'hui connaissent bien ces années. Alors, pour le contexte, la télé couleur arrive dans la majorité des foyers. On voit maintenant la démocratisation de la télécommande, hein, ce petit objet qui changera à jamais notre usage. Pour ceux qui ont connu les premiers postes, hein, il faut s'imaginer qu'il fallait se déplacer pour changer les chaînes et appuyer sur des boutons quand il y en avait, hein, car souvent les petits socles qui servaient de boutons avaient disparu ou étaient cassés. Alors, concernant les différentes chaînes, les modes de transmission, hein, donc tout s'organise, hein, des établissements tels Radio France, Antenne 2, TF1, l'INA font leur apparition, tout comme le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 89, qui va réguler, contrôler et délivrer des autorisations d'émettre aux radios privées et aux chaînes de télé privées, nationales, régionales ou locales. Il va réguler le secteur audiovisuel au nom de l'État, mais sans dépendre du gouvernement. Une autre grande chaîne payante cette fois-ci, et ça va être une première, fait son apparition. Hein. Je veux parler bien sûr de Canal+, qui va voir plus tard débarquer des émissions cultes, mais aussi les films pornographiques. Hein. Ceux qui n'avaient pas Canal étaient en revanche bien équipés de passoires. 92, disparition des speakerines, l'occasion de revivre les fous rires de Denis Fabre, bien sûr.
Je suis jamais arrivé.
Qu'est-ce que vous choisissez?
Écoutez, n'arrête vraiment pas. Alors, à midi et demi, la bonne conduite. Et puis, l'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec les Vikings, si on est sa bande. Et puis, la case de l'oncle Tom.
Et on ne peut pas parler des années 80 sans parler des dessins animés qui vont débarquer par dizaines sur les chaînes de télé et marquer des générations entières. Alors le premier dessin animé était Goldorak, qui au départ servait de bouche-trou. Il était diffusé seulement l'été, mais très rapidement la rédaction d'Antenne 2 va recevoir une avalanche de lettres de la part de nouveaux fans. Ça va devenir un tel phénomène que Goldorak va faire la couverture de Paris Match. Les chaînes de télé vont alors importer de plus en plus de séries japonaises, moins onéreuses qu'un dessin animé américain ou européen. Bioman, Cat Sai, Albator, le corsaire de l'espace, Candy, Gigi, Lady Oscar vont alors débarquer dans les émissions jeunesse qui fleurissent. Récréa 2, Croque Vacances, Amuse 3, Vitamine, Club Dorothée. L'occasion de ces noms agissent comme de véritables Madeleine de Proust pour de nombreuses personnes. Et en plus, quand on parle de dessins animés, on parle bien sûr des génériques avec certains qui vont rester dans le top 50 pendant 10 semaines. Jake, c'est les conquérants de la lumière, par exemple. Quant à la radio, tout de même, 80, naissance de Radio G, hein, dans un contexte où les radios dites pirates deviennent libres et autorisées. C'est aussi du fait de cette nouveauté que le CSA apparaît. Il fallait une autorité pour permettre de répartir les fréquences de manière indépendante. France Info est créée en 87. Une quarantaine de radios locales sont aussi créées par Radio France. 97, naissance de la radio Le Move, hein, créée pour viser un public jeune. En 91, naissance de Radio Autoroute avec tous les quarts d'heure un journal en direct diffusé, lequel prend en compte les différentes conditions de circulation. Ce journal peut être interrompu à tout moment pour relayer tout nouvel événement dans le trafic ou la météo, dès lors qu'il représente un danger. Les jours où la circulation est intense, un journaliste est même à bord de la voiture Radio Vinci Autoroute pour faire des points réguliers en situation. Concernant Internet, 1995 marque la naissance du tout premier réseau social, classmates.com, permettant aux Américains de retrouver leurs anciens camarades de classe.
She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never.
C'est la dernière partie de notre émission spéciale. On va parler de la période 2000 à 2021 en évoquant les grands événements, les médias, les inventions et les domaines du bien-être et de la vie quotidienne profondément bouleversés. On commence par les grands événements avec Pierre Benoît.
2000-2021, les grands événements.
Merci Raphaël. Alors, puisqu'on évoque les 100 ans de la radio en France, pourquoi ne pas parler de Radio G, qui fêtera en 2021 ses 21 ans? Quoi? Ah oui, les plus informés de nos auditeurs voudront me rectifier et me rappeler que notre belle radio associative fêtera plutôt ses 40 ans. Oui, mais là on parle de Radio Gribouille, qui a été créé en 1981. Vous êtes perdus, hein? Je vous fais un petit tour historique. Un peu plus tôt dans la semaine, Bruno, vous avez expliqué que le 24 décembre 1921, Radio Tour Eiffel émettait le premier programme musical à destination du public. Évidemment, peu de monde disposait d'appareils permettant de recevoir et d'écouter la radio. C'est aux États-Unis que le média radiophonique s'était démocratisé avec la forte croissance des années 20 accompagné du jazz. Mais en France, comme on l'avait vu également plus tôt, c'est en 1940 et pendant la Deuxième Guerre mondiale que la radio va montrer toute son importance. Et d'ailleurs, elle va rester pendant très longtemps un outil du pouvoir pour diffuser les informations, un peu choisies par le pouvoir, justement. Courant les années 70, la jeunesse, en quête de rock'n'roll, utilise la radio pour diffuser ses vinyles favoris. Mais il est interdit d'utiliser la bande FM. On parle alors de radio pirate, dont Radio G, qui s'appelle Gribouille à ce moment-là, fera partie. En 1980, Mitterrand libéralise la bande FM entre 88 et 108. Gribouille se constitue alors en radio associative et deviendra Radio G en 2000. Pourquoi ? Élément de réponse à partir d'octobre et les 40 ans de votre radio favori.
Merci Pierre Benoît. Allez, j'enchaîne tout de suite avec les médias.
2000-2021, les médias.
Nous sommes le 26 avril 2001. Dans quelques minutes, une jeune femme s'apprête à apparaître devant les écrans de la France entière. Elle porte seulement une petite valise. Son prénom est Loana. Son destin et celui de 10 autres de ses camarades va basculer dans 5, 4, 3, 2, 1.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ?
Générique culte, celui de Loft Story 1, celui de la toute première émission de télé-réalité en France, qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année en 2021. Jamais dans l'histoire de la télé, une émission va déclencher une telle déferlante de critiques, de commentaires sur le concept d'enfermement, du voyeurisme, de la soif de sensationnel du téléspectateur. Tout le monde parle de Loft Story. De nombreuses autres téléréalités associant toujours le jeu vont se succéder dans les années suivantes. Koh-Lanta, Secret Story, Nice People, L'île de la Tentation, Le Bachelor, la Star Academy, entre téléréalité et télécrochet selon moi. Alors télécrochet, c'est un concours de chant, c'est pas un nouveau, le télé crochets, ça existe depuis Le Jeu de la Chance dans l'émission Télé Dimanche dans les années 60 où Mireille Mathieu, Georgette Lemaire et Thierry Leluron furent les principales célébrités. L'Eurovision est également considérée comme télécrochet. Je pense également à Rideau lancé par Guy Lux dans les années 70 sur Antenne 2. Remis au goût des années 2000, on voit apparaître Popstar, puis plus tard Nouvelle Star ou bien encore The Voice, l'émission dans laquelle on attend toujours de voir la prestation de notre soso national. Quand même, qu'est-ce qui est passé de 50 cm à 2 cm en 20 ans ?
T'es vieilli, mon pauvre Raphaël.
Voilà, l'écran télé, effectivement. Du coup, on est passé d'un gros poste télé à un écran de 2 cm, télé HD, voire plus. Retour en 2021, ces 20 dernières années ont vu l'usage de la télévision se remettre en cause avec la multiplication des chaînes, l'arrivée des smartphones, des chaînes YouTube. On regarde ses émissions, ses programmes favoris seuls, partout, dans le métro, dans les toilettes, sous la couette, sur la plage, n'importe où, n'importe comment. On peut donc s'inquiéter de l'avenir de la télé au jour d'aujourd'hui, mais on en reparlera dans 100 ans. Concernant les autres médias pour la presse, 2022 marque l'apparition de journaux gratuits comme Métro, 20 minutes, entièrement financés par la publicité. Ça va inquiéter beaucoup de quotidiens payants dont le lectorat diminue. Alors pour enrayer ce mouvement, beaucoup développent des suppléments tels le Figaro Magazine, Le Monde 2, qui se concentrent sur des sujets de société ou de loisirs, tandis que d'autres tentent d'exister uniquement sur Internet, Rue 89, Bakchich, etc. On parle également de l'évolution ces 20 dernières années d'Internet avec un événement fort qui changera nos vies, nos modes de communication, l'arrivée des réseaux sociaux. Le plus important restera Facebook, qui pour rappel était initialement un trombinoscope pour les étudiants de Harvard. Partage, discussion, commerce, localisation, échange de photos, de vidéos. Personne ne peut échapper à la création d'un compte, voire de plusieurs partout. Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Les réseaux sociaux vont aussi sauver de l'isolement de nombreuses personnes, notamment en mars 2020, lors du confinement de la planète entière en raison de la pandémie qui nous touche depuis 2020. Place maintenant à Bruno pour les inventions de ces 20 dernières années.
2000-2021, les inventions.
Une nouvelle révolution a commencé dès les années 80 avec les premiers compact disques, l'avènement du numérique. Mais un petit retour en arrière s'impose. Avant, pour transporter un son et même voir une image, on utilisait un signal dit analogique, c'est-à-dire qui variait en fonction du message. Plus c'était fort, plus il y avait de courant qui passait. Plus c'était aigu, plus le courant variait rapidement. Bien, ça marchait bien, mais on ne pouvait mettre qu'une quantité très limitée d'informations sur un disque ou même sur les ondes radio. On a alors transformé ce signal analogique en un signal numérique. Alors concrètement, bien en fait, on enregistre un chiffre qui correspond à au niveau du son et un autre pour savoir si c'est aigu ou grave, et ce, des millions de fois par seconde. Alors on se retrouve alors avec une chanson qui est représentée par des chiffres qu'on peut manipuler plus facilement. Alors si on perd un tout petit peu de chiffres en route, bien c'est pas grave, même si le disque est un petit peu sale ou si on capte mal la radio, eh bien mathématiquement on peut retrouver ces chiffres, donc le son est de meilleure qualité, beaucoup plus stable, même dans les mauvaises conditions de transport. Alors autre avantage, alors qu'aujourd'hui sur une onde radio on ne pouvait mettre qu'une station, là on va pouvoir en mettre plusieurs. Ça en sera fini donc des Radio G 101.5 FM. Ce sera juste Radio G dans un moteur de recherche sur votre radio. Ça s'appelle la radio numérique terrestre, la RNT. Donc ça fait près de 10 ans que petit à petit ce système est proposé dans les villes en parallèle à la FM traditionnelle. Mais comme on utilise les mêmes ondes radio pour transporter les informations FM et RNT, eh bien à un moment donné, il va falloir complètement abandonner la FM. Alors en sachant que vos postes radio actuels sont incompatibles avec la RNT, c'est une révolution aussi importante que pour celle de la TNT qui va nous tomber dessus dans quelques temps. Si à la télé, on a gagné plein de nouvelles chaînes gratuites, eh bien ce sera aussi le cas à la radio. La concurrence va être vraiment rude, surtout qu'une nouvelle façon d'écouter la radio commence à s'imposer, le podcast. Et pour ça, Radio G a fait depuis longtemps sa révolution puisque toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio G. Et même mieux, il y a maintenant des contenus courts, les podcasts plus, à découvrir sur radio-g.fr. Alors pour exister, la radio va devoir se réinventer. On en reparle bien sûr dans 100 ans.
Merci Bruno. Dernière rubrique de cette émission et de cette semaine spéciale, et on la conclut en beauté avec la chronique cuisine et loisirs de Karine.
2000-2021, l'art de vivre.
Alors, les jeux s'inscrivent comme les loisirs de masse à partir des années 2000. Rappelez-vous, la Wii a sans conteste contribué à ouvrir l'univers des consoles de salon à un public large. Si le nom de la console sonne comme Wii, W-E, c'est-à-dire nous en anglais, ce n'est pas un hasard. Ce qui souligne que cette console est pour tout le monde. Les gens du monde entier peuvent se souvenir facilement de la Wii, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Pas de confusion, pas besoin d'abréviation, juste Wii. La Wii a une orthographe distinctive avec les doubles I qui symbolisent à la fois les manettes, qui sont assez uniques puisqu'il y en a une dans chaque main. Alors sans transition à l'arrivée de la Stevia, je voudrais du sucre sans sucre et sans danger, mais bien sûr, la vedette incontestée des édulcorants avec des risques cancérigènes, des molécules sans glucose reconnues pour leur pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre. Cette plante est restée cachée durant des centaines d'années dans les terres amazoniennes avant d'éveiller l'intérêt de l'industrie agroalimentaire. Souvenez-vous aussi, dans les années 2000, apparaît la cuisine du futur. La cuisine moléculaire qui fait des bulles, sort des siphons et offre de beaux spectacles aux clients. Et pour celles qui souhaitent paraître 10 ans de moins et prévenir la ride naissante, on cuisine anti-âge sur fond de bruit de cocotte. Alors, tout autre registre, la montée en puissance de la digitalisation, sans quoi Airbnb, par exemple, ne pourrait pas exister. Le Airbnb, la réservation de logements privés pour les voyageurs. C'était donc fin 2007 à San Francisco, les fondateurs du Airbnb, donc Brian Chesky et Joey Jebbia, viennent de quitter New York. Ils ont acheté quelques matelas gonflables et ont rapidement mis en place un site appelé Airbed and Breakfast. Désolé pour l'accent. Donc, fort de leur succès, les deux fondateurs biberonnés à l'entrepreneuriat made in Silicon Valley vont transformer ce premier essai en projet de société en s'inspirant du nom du matelas gonflable Airbed, qu'ils utilisent alors dans leur première tentative hôtelière et créent donc le Airbnb.
Eh bien, merci Karine. Merci à tous de nous avoir suivis toute cette semaine à l'occasion des 100 ans de la radio. Retrouvez toutes les chroniques de cette émission spéciale en podcast sur radio-g.fr. À très vite. Alors, si vous voulez nous retrouver toute l'année, vous pouvez également suivre notre émission Tendance à me plaire. Allez, soyons fous. On se retrouve dans 100 ans. À bientôt, les amis.
Topette. We'll be right back. Avec Radio G, fêtez les 100 ans de la radio en France. Sur le 101.5.
Radio G. 101.5 FM.